Alors, point numéro 14, zone d'aménagement concertée de la Petite Veuve. C'est encore Monsieur Liogé.
Voilà, c'est le même bilan aussi, mais pour une zone qui est essentiellement une zone d'activité, hein, que vous connaissez. Bon, cette zone est en voie d'extinction dans la mesure où il ne reste plus qu'un seul terrain à vendre qui représente 2,6 hectares. Hein, en compromis de vente d'ailleurs aujourd'hui avec Somergy, donc on espère bien que pour l'extension de l'activité cela va se réaliser dans l'année qui vient. Donc vous avez l'ensemble des chiffres, donc la superficie commercialisée sur l'ensemble de la zone s'établit à 13 hectares depuis l'origine, hein, sur 15. Au 31 décembre 2010, la situation de la trésorerie présente un excédent de 457 031,56 €. La zone devrait dégager un excédent de 287 000,199 € à la clôture de l'opération, on espère, assez rapidement. Elle ne comporte ni emprunt ni avance de trésorerie. Le bilan financier prévisionnel au 31 décembre 2010 se chiffre à hauteur de 4 995 000 € TTC en dépenses et 5 282 200 € TTC en recettes. Pardon ? Oui, c'est une zone qui est en voie d'extinction. Voilà.
Bien. Y a-t-il des questions ? Alors, Madame Colin-Sterlé.
Oui, Monsieur le maire. Si vous me le permettez, j'aimerais profiter de ce point, de cette motion, pour faire un petit point sur la politique générale de la ville, rapidement, hein, en matière d'aménagement des espaces et d'urbanisation de notre ville. Il me semble que cette manière que l'on a constante, comme ça, d'aborder des espaces par séquences successives, ne permet pas finalement d'avoir une vision complète du sujet du logement, des surfaces commerciales, des bureaux et de la capacité de la ville à digérer tous ces projets. Et se pose toujours finalement la question de la cohérence d'ensemble de tous ces projets. Alors c'est vrai que je vais faire une petite énumération rapide, mais on peut citer quand même en vrac... la ZAC de l'amphithéâtre, avec au total environ 1 600 logements à terme, les coteaux de la Seille, 1 600 logements alors que 1 250 étaient prévus au départ, la ZAC du Sansonnet, 380 logements collectifs et individuels, le projet Altadis, la ZAC des Hautes-Vallières, le projet Technopôle, essentiellement en zone d'activité, mais environ 900 logements à plus long terme. À ces grands projets s'ajoutent, de multiples petites opérations qui ne sont pas contestables, qui comptent des dents creuses urbaines, des logements rue Malraux, rue de la Ronde, rue Jeanne Jugan, j'en passe. Et il faut également tenir compte des terrains et immeubles qui sont ou qui vont devenir disponibles et dont la vocation n'est pas aujourd'hui déterminée, mais dont on peut penser qu'une partie pourrait être requalifiée en logement. Alors au-delà... finalement, du nécessaire renouvellement du logement, il faut constater qu'il y a, je crois, un dogme de la densification aujourd'hui, je dirais même surdensification urbaine, qui ne tient pas compte de nombreux facteurs qui interviennent dans l'élaboration du programme local de l'habitat. On nous notifie la nécessité de construire 1 000 logements par an sur 6 ans au niveau de Metz Métropole et 571 par an pour Metz. Mais finalement, il ne semble pas être tenu compte des projets des communes qui ne font pas partie de Metz Métropole, mais d'ailleurs du fait que Metz perd actuellement des habitants et que l'agglomération ne crée pas d'emplois. Je ne suis pas sûre que la migration des jeunes ménages vers la deuxième périphérie soit enrayée par cette politique, car il est vrai que les prix d'acquisition et de location restent élevés. Et si on fait l'addition de l'inventaire que je viens de faire très rapidement, qui est certainement incomplet, on trouve 5 437 logements construits à Metz à terme, à comparer avec le programme prévu au PLH de 571 par an sur 6 ans, soit 3 426. Alors c'est vrai que, pour être tout à fait clair et donner des chiffres se rapprochant le plus possible de la réalité, c'est vrai que les chantiers comme l'amphithéâtre ou le Technopôle 2 sont prévus pour se développer à plus ou moins longue échéance. Mais finalement, je ne voudrais pas que la municipalité joue à l'apprenti sorcier en poussant des promoteurs à s'installer alors qu'il y a déjà une vacance qui n'est pas négligeable. Et j'ajoute que, outre le problème de cohésion d'ensemble, la stratégie du logement... La question des périmètres et les coûts annexes des opérations immobilières ne sont jamais abordés simultanément. Les voiries, transports collectifs, déplacements, équipements collectifs, écoles, crèches, cultures, réseaux électriques, traitement des eaux usées. Et l'équilibre et l'harmonie des quartiers ne doivent pas, je crois, laisser la place à une politique à courte vue, d'autant plus que l'augmentation importante et régulière de la fiscalité messine, je suis désolée de le dire, peut accentuer quand même la fuite des gens. Un dernier point enfin. Il est évident que sur le plan social, La densification est une source de conflits de voisinage. Et il n'y a qu'à faire un rapide retour d'expérience dans les lotissements de certaines villes qui sont ultra confinées, où les voiries sont étroites, les places de parking certaines fois insuffisantes et les terrasses minuscules, les conflits de voisinage s'y multiplient. Alors j'ai un peu peur que nous ne soyons pas en mesure de digérer tout cela sans casse. Et je souhaiterais qu'on ait une vision beaucoup plus globale en matière de logement eu égard au contexte actuel de notre ville et notre agglomération. Je vous remercie.
Merci. D'abord, je voudrais faire une remarque directe en commentant le propos de Mme Colin-Esterlet. La méthode qui consiste à présenter au Conseil municipal l'équilibre financier des actes est une méthode qui était proposée par mon prédécesseur. Dans la mesure où il y a des projets de groupe, faites attention à ce que vous dites, parce que le groupe unique, parce qu'en réalité, je trouve que c'était une très bonne méthode. Et donc, je n'ai pas l'intention de revenir sur cette pratique qui est une pratique de salubrité financière qui consiste à voir justement si on a intégré dans les projets les voiries, les transports en commun éventuellement, les égouts, les équipements, qui fait que justement on équilibre à juste titre. Donc je me tourne vers l'autre côté du futur éventuel groupe unique d'opposition pour dire à Mme Colin-Esterlet, surtout n'insistez pas dans ce domaine-là parce que mon prédécesseur travaillait bien. Et j'ai l'intention de continuer, c'est d'autant plus que c'est la loi. Et que quand on fait une ZAC, c'est comme ça qu'on doit présenter les choses. Et si jamais il doit y avoir des financements à l'équilibre, nous devons les expliquer explicitement en expliquant pourquoi on a apporté des moyens particuliers. Et quand on travaille sur des territoires comme celui-là, qui sont des territoires ex nihilo, on doit être équilibré. C'est autre chose quand on reprend des terrains anciens, comme par exemple la gare de marchandises de Metz, où il a fallu dépolluer, s'organiser, c'est autre chose. Et là, on peut concevoir qu'il y ait une participation de la ville. On le verra, par exemple, quand on parlera de la caserne des Vallières, ou comme on est obligé de faire pour le centre des essences. Alors là, les équilibres sont un peu différents. Maintenant, s'agissant des projets de logement. Vous avez parlé, madame, des logements qui se font à l'extérieur. Que voulez-vous que je vous dise? Nous avons un PLH qui a été adopté dans Metz Métropole. Nous sommes d'ardents partisans, nous sommes d'ardents partisans de PLH assumés avec l'ensemble des communes des environs. Mesurez le progrès. Je salue d'ailleurs le vice-président de Metz Métropole, peut-être le connaissez-vous, Monsieur François Groudidier, qui a présenté ce projet. Et comme il a été fait en notre compagnie, on l'a adopté complètement. Et effectivement, les chiffres que vous donnez sont exacts. Pourquoi sont-ils bons ? 1000 logements par an sur Metz Métropole, dont 500 sur Metz, à peu près la moitié. Eh bien, tout simplement parce que, effectivement, il y a une tentation à l'extérieur de Metz de continuer la politique ancienne qui consiste à envahir les terres agricoles avec des lotissements de petites maisonnettes plantées sur des parcelles. Et effectivement, nous avons, au lointain pourtour de Metz, une politique que nous essayons de discuter à l'intérieur du SCOT. C'est notre travail. Actuellement, le SCOT est en cours de discussion et nous pourrons avoir une cohérence d'ensemble mieux élaborée, plus efficace quand nous aurons un SCOT, ce qui n'est pas encore le cas. Mais entre-temps, laissez-moi appliquer les principes du Grenelle de l'environnement. Quand j'entends dire que le professeur Peltre est l'inspirateur de la politique d'au moins une partie de l'opposition, je vous dis que je suis d'accord avec lui. Et que dit-il? Il dit exactement le contraire de ce que je viens d'entendre. Il dit que les villes doivent au contraire avoir de grands espaces verts, de grands espaces humides. Ce sont nos rivières. Ce sont, par exemple, la trouée de la Seille. Nous allons agrandir le jardin du Luxembourg qu'on a réussi à sauver magnifiquement jusque, par exemple, à la butte du boulevard Serrault. Tout ça, ce sont des coulées vertes. Et entre-temps, là où nous construisons, par exemple, devant Pompidou, nous construisons à une densité urbaine correspondant à la nature des villes. Les villes doivent être denses et non pas continuer l'étalement urbain qui actuellement aboutit à ce qui est plus d'un département de surface agricole qui est perdu tous les 10 ans en France. Et donc nous avons également une compétition en ce qui concerne la population. Pourquoi ? Parce qu'avec les 500 logements par an, compte tenu des décohabitations, des veuvages et du vieillissement de la population, nous arrivons juste à maintenir la population de la ville. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez, madame, à côté de vous, un spécialiste du logement, là. Monsieur Antoine, qui est président d'une structure importante, il pourra vous l'expliquer. Et donc, on a là une tendance à ce que chaque famille habite dans davantage de mètres carrés, compte tenu des phénomènes que j'indique. Si bien que la politique que nous menons est une politique de sagesse pour simplement permettre à la ville de Metz de conserver les positions qui sont les siennes. J'ajouterai in fine que dans l'attractivité de la ville qui augmente, nous avons des gens qui veulent habiter Metz. Nous avons été surpris, et même quelquefois très surpris, de voir ce qu'acceptent de payer au mètre carré. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'un prix de mètre carré. Moi, j'ai entendu parler de prix de mètre carré d'immeubles qui se vendent à Metz, ça m'a glacé le dos. Et on m'a expliqué, aucun problème. Nous trouvons à vendre en un week-end la totalité d'un immeuble qui était devant le centre Pompidou. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne vais pas me satisfaire de cette explication parce que je trouve que c'est cher, mais en même temps, je constate que nous avons des personnes qui achètent et qui veulent habiter là. Donc, ne noircissons pas la situation. Vous avez fait un cavalier, madame, qui m'a permis de vous répondre. J'adore ce débat, parce que c'est le débat qui est vraiment central dans l'avenir de notre ville. Nous avons des positions différentes, c'est vrai. Je suis contre l'étalement urbain, c'est vrai. Mais, madame, je vous rassure, le ministre de l'Environnement du gouvernement que vous soutenez est de mon avis. Demandez à madame Kosciusko-Morizet ce qu'elle en pense. Elle signerait ma déclaration. Je vous remercie. Alors, qui est contre ? Alors bon, c'est un autre sujet. Monsieur Etner, je vous promets qu'on en parlera bientôt. Mais laissez-moi quelques cartouches pour la situation qui est la nôtre. Nous ne sommes pas indifférents au sujet. Voilà. Alors qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien écoutez, le point est adopté.